En octobre 2012, à l'occasion du colloque Eutique, j'ai présenté le résultat d'une étude que j'ai conduite autour de la BD novella Les Autres gens. Cette communication s'est intitulée Le récit à l'épreuve de la conversation. L'étude s'inscrit dans le cadre du travail de ma thèse en sciences de l'information et de la communication, dont le thème est Usage des dispositifs de publication numérique par les auteurs et les publics de bande dessinée. Il ne s'agit pas pour moi d'étudier la bande dessinée en tant que telle, mais ceux qui produisent et qui lisent des récits sur support numérique et qui se revendiquent de l'héritage de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'à travers ces usages de création et de lecture de bande dessinée numérique, je cherche en fait à caractériser nos pratiques narratives à l'ère numérique et puis comprendre dès aujourd'hui pourquoi est-ce que à l'avenir nous allons sans doute raconter différemment. Les autres gens sont un objet particulièrement intéressant à étudier dans la mesure où il s'agit d'une série quotidienne donc, qui est parue entre mars 2010 et juin 2012 sur lesautresgens.com. Il s'agit de la première bande dessinée numérique citée dans la presse francophone, en dehors des blogs BD, d'après une recension que j'ai pu réaliser dans la presse généraliste entre 1997 et 2011, au moyen d'une base de données d'articles de presse. Les autres gens est le fait d'un scénariste, Thomas Caden, qui s'est entouré au fil du temps de plus d'une centaine de collaborateurs, des co-scénaristes, mais surtout et principalement des dessinateurs, pour réaliser les épisodes quotidiens de la série, puisqu'il n'était matériellement pas possible qu'un seul dessinateur assure la totalité du travail. Et il s'agit du premier exemple vraiment d'envergure de publication professionnelle en matière de bande dessinée numérique francophone, puisque le projet s'est avéré commercialement, économiquement viable. La particularité qui m'intéressait pour les autres gens dans le cadre de cette étude, c'est la multiplicité des dispositifs médiatiques, c'est-à-dire qu'autour des épisodes réguliers qui constituent le récit, on trouve des suppléments humoristiques. Alors il s'agit d'un magazine, d'un vrai faux magazine type magazine télé autour de la série qui paraissait tous les mois, et puis du résumé mensuel de l'action qui lui aussi était un point de vue humoristique sur le récit. On trouvait également les news publiées sur le site officiel, un forum de discussion, une page Facebook officielle et un compte Twitter officiel. La question que je me suis posée, c'est de savoir si toute la multiplicité des dispositifs de communication qui étaient proposés était le fait d'une projection, d'une construction des publics, et de savoir aussi si effectivement les publics des autres gens utilisaient et comment ils utilisaient ces dispositifs de communication. La deuxième question que je me suis posée, c'était mon hypothèse, c'était de vérifier si il y avait différentes pratiques médiatiques ou transmédiatiques, c'est-à-dire des publics qui utilisaient plutôt le forum, plutôt Twitter, plutôt Facebook, ou trois de ces supports. Comment est-ce qu'ils les utilisaient? Est-ce qu'il y avait une pluralité de pratiques qui existaient? Et si cette pluralité de pratiques pouvait être révélatrice d'une pluralité de publics? Et puis, j'étais amené à m'interroger sur ce qu'était un fan. Ça a été un petit peu la surprise de cette étude, on le verra tout à l'heure. Qui m'a conduit vraiment à remettre en cause la définition académique habituelle du fan qu'on tire principalement d'Ori Jenkins, qui présente traditionnellement le fan comme un lecteur ou un spectateur extrêmement contributif. Alors, en termes de méthodologie, je me suis basé sur une typologie dynamique qui a été proposée par Orban de Xivry, Julie Matagne et Annabelle Klein dans un livre qui s'appelle Objectif Blog, qui date de 2007. Cette typologie dynamique cherchait à situer les blogs suivant deux axes, l'axe de l'implication, donc l'implication des auteurs dans le blog ou dans le dispositif de communication, est-ce qu'ils sont extrêmement détachés dans le discours qui diffusent sur ce support, ou est-ce qu'au contraire ils s'impliquent très personnellement dans ce discours. Et puis le second axe, c'est celui de l'interaction, donc qui va de la simple publication à la conversation. Ce sont deux termes que Baudouin en 2002 a mis en avant. L'idée, c'est d'identifier si le projet d'un blog, en l'occurrence, et plutôt de simplement publier de l'information ou plutôt d'entrer en conversation avec son lectorat. Donc c'est ainsi qu'on parvient à une typologie qui permet de situer les blogs et les auteurs de cette typologie suggèrent qu'on puisse l'appliquer à d'autres dispositifs, et c'est ce que j'ai décidé de faire, donc de situer les projets des blogs entre le témoignage, la correspondance, l'information ou l'interpellation. Donc c'est assez schématique, mais ça m'a permis de situer un petit peu les différents dispositifs. Positionner donc le forum, la lettre électronique, Facebook, les épisodes réguliers et les épisodes humoristiques dans cette typologie dynamique. J'ai une méthodologie assez variée puisque je m'étais d'abord entretenu dans le cadre d'une autre étude avec 5 auteurs collaborateurs de la série et puis Thomas Kaden. J'ai conduit un nouvel entretien avec Thomas Kaden spécifiquement autour de la question des publics. J'ai également observé les pratiques qui étaient en vigueur sur les différents dispositifs. Et puis, j'ai pu relayer un questionnaire qui a recueilli 216 réponses de lecteurs de la série. Donc, ce questionnaire avait été relayé sur la page Facebook, le compte Twitter, les news, le forum de la série, également au sein d'un supplément humoristique. C'est l'encart qu'on voit à l'écran. Donc l'idée de cette diffusion sur le supplément humoristique, c'était de réussir aussi à toucher des lecteurs qui peut-être n'utilisaient aucun des dispositifs de communication qui leur étaient proposés autour de la série. Et puis j'ai complété cette méthode de recherche par 6 entretiens semi-directifs que j'ai conduits auprès de lecteurs que j'ai sélectionnés parmi les répondants au questionnaire parce que leurs réponses m'avaient interpellé. Voici à présent la cartographie, on va dire, des dispositifs de communication qui sont proposés autour des autres gens. Dans la zone informative, on va trouver les épisodes qui sont publiés tels quels, c'est de la pure publication. Les suppléments humoristiques tendent vers une forme d'interpellation. Ils interpellent le lecteur, mais sans pour autant permettre une conversation, on reste quand même dans la publication. Il y a une dimension de témoignage dans ces suppléments humoristiques, puisque les auteurs se livrent, s'investissent beaucoup plus personnellement. Les news et Facebook sont plutôt des outils de l'interpellation, c'est-à-dire que même si Facebook permet a priori pas mal d'interactions, de commentaires, de conversations, en réalité les usages ne vont pas dans ce sens-là. On est plutôt sur un support qui annonce les nouveaux événements, les nouveautés. Ce qui est intéressant, ce sont les dispositifs de la correspondance, à savoir Twitter et le forum. Alors Twitter, c'est vraiment une correspondance à part égale entre les auteurs et certains lecteurs qui ont des comptes Twitter. C'est aussi un support sur lequel on va trouver des témoignages tant de la part des auteurs que des lecteurs sur leurs pratiques quotidiennes. Et puis le forum, alors je l'ai mis en noir parce que le forum, c'est plus un outil que se sont appropriés les lecteurs, un dispositif que se sont appropriés les lecteurs plutôt qu'un dispositif publié, édité par les auteurs eux-mêmes, puisque sur le forum, les messages sont initiés par les lecteurs et les auteurs se contentent, en particulier Thomas Kaden, de répondre de manière assez neutre bien souvent, ou alors de répondre en tant que lecteurs eux-mêmes. C'est vraiment un espace de conversation pour les lecteurs. Ce qui apparaît dans cette typologie de dispositifs de communication autour de la série des autres gens, c'est une zone centrale que j'intitule la zone de la réflexivité, qui regroupe un certain nombre de dispositifs qui ont vraiment vocation à la fois à publier les témoignages et des choses autour des lecteurs et de leurs pratiques, et à la fois à leur permettre de converser. C'est-à-dire que sur ces dispositifs, qui est aussi vraiment autour de la partie centrale de la typologie, on a des lecteurs qui contribuent ou pas, mais qui en tout cas voient l'existence d'un ou plus ou deux publics, de différents publics qui lisent et qui s'intéressent à la série. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire public, d'après Dayan, un public ne peut exister que sous forme réflexive. Son existence passe par sa capacité à s'auto-imaginer. Et on voit bien l'importance de tous les dispositifs de communication qui permettent à des lecteurs qui ne contribuent pas nécessairement à la communication, qui ne conversent pas forcément, ça permet malgré tout à ces lecteurs-là de voir les conversations des autres, de voir les témoignages des autres, et donc d'avoir une pratique réflexive de leur lecture, et du coup de se reconnaître en tant que public. Et alors, pour identifier les différents publics qui gravitent autour de la série, j'ai pu élaborer, à partir des entretiens que j'ai conduits, un scénario idéal, qui consisterait, pour le lecteur idéal, à d'abord s'informer de la publication d'un nouvel épisode, soit via Facebook, soit via Twitter, pour aller ensuite lire les épisodes réguliers et humoristiques, parce qu'il a été informé de leur publication, converser sur Twitter autour de sa lecture, et témoigner ensuite sur le forum de ses conclusions, de ses opinions, de ses avis, et relancer les discussions pour à nouveau retourner s'informer et poursuivre sa lecture. À partir de là, on peut dresser une typologie avec une petite matrice. Le public idéal réalise la totalité de mon scénario. Les twittos sont des lecteurs qui ne participent pas au forum mais qui conversent sur Twitter tout en s'informant. Les forumers sont des lecteurs qui ne conversent pas sur Twitter mais qui participent activement au forum. Et qui pour certains ne s'informent pas ni via Facebook ni via Twitter et donc ont un usage exclusivement du site officiel, c'est-à-dire ils vont lire les épisodes sur le site officiel et participent au forum. On a un public connecté qui lui ne participe pas au forum mais qui s'informe malgré tout grâce à Facebook, grâce à Twitter, et un public qui est non contributif et qui n'utilise aucun des dispositifs de communication proposés autour de la série. Alors, moi, j'ai été amené à m'interroger sur la notion de fan, parce que les différents lecteurs de la série qui ont répondu à mon questionnaire pouvaient me dire s'ils se sentaient plutôt pas du tout, ou surtout tout à fait fan de la série. Alors, mon questionnaire n'a pas recueilli des réponses représentatives de l'ensemble du lectorat des autres gens, naturellement parce que son mode de diffusion privilégier des lecteurs qui s'investissaient sur les différents dispositifs, puisqu'il a été diffusé surtout sur les dispositifs de communication autour de la série, donc tous ceux qui ne les consultent pas avaient moins de chances d'y accéder, et puis parce que, on pouvait vraiment s'y attendre, hein, sont principalement des gens intéressés par la série qui ont répondu à mes questions. Ceci étant, j'ai quand même trois ensembles, les gens qui disent qu'ils sont fans de la série, les gens qui me disent qu'ils sont tout à fait fans de la série, et puis tous les autres, même si ces ensembles n'ont pas des proportions représentatives de l'ensemble du lectorat, ce qu'on peut voir, c'est qu'au sein de chacun de ces ensembles, on a des représentations un taux de représentation qui varie entre les différents types de publics, c'est-à-dire que le public idéal est nettement plus représenté parmi les fans que parmi les autres lecteurs de la série. Les usagers les twittos sont plus représentés parmi les non-fans, donc on peut se dire que la dimension conversationnelle de Twitter ne le réserve pas exclusivement aux gens qui se passionnent pour la série. En revanche, le forum est plutôt l'apanage, l'usage du forum est plutôt l'apanage des fans. Évidemment, le public passif ou plutôt non contributif, est plus représenté parmi l'échantillon des gens qui ne sont pas fans de la série. Ce que je trouve intéressant dans ces données, c'est de voir les variations, déjà, de voir que le forum est plutôt un indice d'une tendance à se montrer fan de la série, de voir aussi que, effectivement, un fan a tendance peut-être plus à aller vers une pratique proche de celle du public idéal, mais ce qu'on voit quand même, c'est que le public idéal, même parmi les fans, représente une portion très minoritaire des répondants. Alors que les répondants au questionnaire ont déjà peut-être une tendance plus contributive que l'ensemble des lecteurs de la série, puisqu'ils prennent la peine de répondre à mon questionnaire. Du coup, ça remet en question l'image du fan comme un hardcore fan, le hardcore fan d'Henry Jenkins, qui est un fan qui s'investit autour de ses passions, qui produit des fanfictions, qui contribue, qui dialogue, qui discute sur les forums, qui échange, qui débat. En réalité, le fan, d'après les réponses que j'ai pu recueillir au questionnaire, mais aussi d'après les entretiens que j'ai pu avoir avec les lecteurs et avec les auteurs de la série, un fan, c'est d'abord quelqu'un qui admire et qui ne va pas nécessairement s'engager par la contribution autour de sa lecture. L'engagement va commencer d'abord par l'abonnement. Le fait de s'abonner à la série est déjà une forme d'engagement importante. Il y a un engagement aussi à travers la régularité des épisodes qu'on vient lire au quotidien. Déjà, rien qu'à travers ça, on peut se sentir un peu plus fan. Mais pour les auteurs comme pour les lecteurs, on peut tout à fait être fan sans contribuer et réciproquement. Pour Thomas Kaden, par exemple, tous les gens qui viennent en dédicace et qui ont des réactions d'enthousiasme sont des fans, mais aussi les gens qui ne viennent pas forcément en dédicace et qui sont passionnés par la série. Donc il faut vraiment se méfier de la tendance qu'on peut voir dans la recherche en sciences de l'information et de la communication en particulier, qui consiste à s'intéresser uniquement aux traces que laissent les gens qui contribuent autour des productions culturelles, des industries culturelles. Les gens qui produisent des traces ne sont pas forcément des fans, et en tout cas ne représentent qu'une minorité des publics et qu'une minorité des fans eux-mêmes. Même en se cachant derrière le terme de fan, ça ne justifie pas le fait de se contenter d'étudier les traces. Il faut trouver d'autres méthodologies de recherche et d'études pour comprendre les pratiques des fans eux-mêmes et des lecteurs dans leur ensemble qui ne sont pour une grande majorité pas contributeurs. Et même s'ils ne contribuent pas, ce que montrait aussi mon étude, c'est que il y a cette zone de la réflexivité et il y a tous ces dispositifs qui permettent à des lecteurs qui ne contribueraient pas de malgré tout se vivre en tant que public à travers le miroir que leur renvoient les contributions de la minorité de fans ou de lecteurs contributeurs. En conclusion, je m'attendais à être peut-être un peu surpris par des divergences entre ce que les auteurs, ce que Thomas Kaden me disait sur la manière dont il a mis en place les outils, sur ce qu'il en attendait, et puis les pratiques que j'avais pu observer. En réalité, il y a une forte corrélation entre le projet qui a présidé à la mise en place des différents dispositifs et puis les pratiques qu'on observe vraiment sur chaque dispositif. En revanche, les pratiques sont bel et bien segmentées. On a bien des gens qui ne vont que sur le forum, des gens qui ne vont que sur Twitter, des gens qui ne vont que sur Facebook, des gens qui contribuent, des gens qui ne contribuent pas. Et ces variétés de pratiques traduisent bien une pluralité de publics, puisqu'on le voyait, on le voit bien à travers la répartition des différents types de publics dans les populations des fans, des non-fans ou des autres lecteurs. On a quand même, parmi mes répondants, un tiers de gens qui sont plutôt contributifs, un tiers de gens qui sont connectés, qui s'intéressent sans contribuer, et puis un tiers de gens qui se contentent d'aller lire la série. La réflexivité est une dimension très importante pour permettre à des lecteurs de faire public, et il faut bien retenir que les hardcore fans sont très minoritaires et qu'on ne peut pas se contenter d'étudier les fans à travers les contributions et les traces que laissent quelques hardcore fans. Être fan, c'est donc d'abord admirer, comme le dit d'ailleurs l'un des premiers fans de la série, qui se reconnaîtra sans doute, au moment où je te fais trop peur parce que je suis trop fan, il faut me le dire. Voilà, même ce fan qui était vraiment l'archétype du public idéal, du hardcore fan, avait tendance à se sentir peut-être un petit peu coupable d'être trop fan, d'après ce qu'il pouvait m'expliquer. En termes de perspective, je pense qu'il y a vraiment matière à approfondir ce public hétérogène des fans qui n'est pas constitué que de personnes contributives. Et puis peut-être autour des autres gens, essayer de comprendre les autres facteurs qui font une hétérogénéité de public et qui sont peut-être le modèle économique de l'abonnement, la forme narrative particulière du feuilleton et puis le contenu narratif lui-même. On n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas dans l'heroic fantasy, on est dans un type de récit très particulier qui peut-être dessine aussi un public particulier. Voilà, à bientôt !